Bienvenue pour cette exploration approfondie. Alors aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui rythme un peu nos journées de travail, souvent malgré nous d'ailleurs, la sédentarité. Et accrochez-vous, parce que le chiffre de départ y fait un peu tourner la tête. En France, un adulte passerait en moyenne 12 heures assis les jours où il travaille. 12 heures, c'est juste énorme. Et ça descend à peine à 9 heures les jours de repos. C'est clairement une conséquence, de nos bureaux, de nos écrans, de nos modes de vie modernes, quoi.
Oui, tout à fait. Cette quasi-immobilité prolongée, c'est devenu un peu la norme pour beaucoup de gens. Mais attention, c'est loin d'être anodin, comme le souligne d'ailleurs le document qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, un article qui s'appelle « La sédentarité en milieu professionnel, un défi pour la santé et la productivité », c'est un enjeu majeur pour le bien-être des personnes au travail et même, vous allez voir, pour leur performance.
Exactement. Donc notre objectif là, c'est de décrypter ensemble ce que ça veut dire exactement la sédentarité au travail, pourquoi c'est un problème sérieux, et puis surtout quelles sont les pistes d'action concrètes que propose notre document source pour y remédier. C'est une analyse qui, je pense, nous concerne potentiellement tous.
Oui, et il faut tout de suite souligner un point important, la responsabilité de l'employeur. On parle de l'article L412-1 du Code du travail dans le document, et cet article rappelle que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ah oui.
Donc, lutter contre les effets négatifs de la sédentarité, ce n'est pas juste une question de bonne volonté, c'est aussi une obligation légale, une question de prévention des risques.
C'est un cadre important à avoir en tête, oui. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Pour bien comprendre, commençons par la base. Qu'est-ce que c'est la sédentarité au travail, d'après notre source?
Alors, le document définit ça comme une situation d'éveil, donc hors sommeil, où on dépense très peu d'énergie, typiquement en position assise ou allongée. Pensez au travail de bureau classique, ou quand on conduit, ou même le temps passé devant la télé. Mais là où ça devient critique, et l'article insiste là-dessus, c'est sur deux facteurs. D'un côté, le caractère ininterrompu de ces périodes assises, et de l'autre, la durée cumulée sur toute la journée.
Donc, si je comprends bien, rester assis, mettons, 3 heures d'affilée devant son ordi, ce serait potentiellement pire que, disons, faire 4 fois 45 minutes, mais avec des pauses où on bouge entre chaque.
C'est exactement ça. L'immobilité vraiment prolongée, sans interruption, ça semble particulièrement mauvais pour l'organisme. Et ça nous amène à une distinction vraiment fondamentale que l'article prend bien soin de faire. Il ne faut pas confondre la sédentarité et l'inactivité physique.
Ah.
Ce sont deux problèmes différents, même s'ils sont souvent liés, bien sûr.
Oui, ça, c'est un point important à clarifier. On pourrait penser que c'est un peu la même chose. Comment le document les différencie alors?
Bon, l'inactivité physique, c'est simple. C'est le fait de ne pas atteindre les recommandations d'activité physique pour être en bonne santé. Par exemple, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et puis l'ANSES en France, elles recommandent pour les adultes au moins 2h30 d'activité d'endurance d'intensité modérée par semaine.
D'accord.
Voilà. Quelqu'un qui ne fait pas assez de sport, de marche rapide, de jardinage actif, ce genre de choses, eh bien, il est considéré comme physiquement inactif.
Ok. Et la sédentarité, du coup?
Eh bien, on peut être sédentaire même si on est physiquement actif. C'est ça le point clé. Imaginez quelqu'un de très sportif, qui va courir tous les matins ou qui va à la salle le soir, mais qui ensuite passe 8, 9, 10 heures assis à son bureau quasiment sans interruption. Cette personne, elle est active physiquement, elle coche la case des recommandations,
Oui.
mais elle est aussi très sédentaire pendant ses heures de travail.
Et j'imagine que l'inverse est vrai aussi, quelqu'un qui ne se voit pas comme un sportif, mais dont le métier l'oblige à bouger tout le temps, un facteur, un magasinier, un serveur, serait moins sédentaire.
Tout à fait. Cette personne, elle n'est peut-être pas physiquement active au sens strict des recommandations sportives, mais elle casse tout le temps les périodes d'inactivité. C'est pour ça que notre source insiste. La lutte contre l'inactivité physique, faire plus de sport, bouger pendant ses loisirs, ça relève surtout de l'hygiène de vie personnelle. Par contre, la lutte contre la sédentarité, ces longues heures assises sans pause, ça concerne directement l'organisation du travail, l'environnement professionnel.
C'est là que l'employeur intervient.
Exactement. C'est là qu'il a un rôle clé à jouer.
C'est une distinction très très claire. On comprend mieux pourquoi on cible spécifiquement le temps de travail. Bon, maintenant qu'on a défini ça, parlons du cœur du problème, les risques. pourquoi c'est si préoccupant cette sédentarité au travail. Le document a l'air assez ferme là-dessus.
Il l'est, oui, et il s'appuie sur pas mal d'études. L'impact sur la santé est vraiment significatif, autant sur le plan physique que mental. Et le point vraiment critique, c'est que les effets négatifs de ces longues périodes assises sans interruption sont difficiles à compenser totalement, même si on fait beaucoup de sport à côté, le soir ou le week-end.
Ah bon ?
Oui, c'est un peu comme si les dégâts s'accumulaient pendant ces heures où on ne bouge pas. Le sport, après, ne répare pas tout, si vous voulez.
Le document liste des risques physiques, ça fait réfléchir quand même. Obésité, diabète de type 2, les troubles musculo-squelettiques, les fameux TMS.
Ah oui, les TMS.
Ces douleurs aux articulations, aux muscles, si fréquentes au bureau, maladies cardiovasculaires et même certains cancers, c'est pas rien.
Absolument pas. Ces TMS, par exemple, c'est une des premières causes d'arrêt de travail dans beaucoup de pays. Et au-delà du physique, il y a l'impact psychologique qui est souligné aussi. Plus de stress, d'anxiété, parfois même de la dépression. Santé publique France est citée dans notre source et il confirme que ces pathologies, eh bien, elles nuisent au bien-être général et elles réduisent l'efficacité au travail.
Il y a quand même une petite note d'espoir, non ? L'article dit que ces risques sont accentués si on est peu actif physiquement en général, mais qu'ils peuvent être atténués si on a une activité physique quotidienne, modérée ou élevée. On a quand même un peu de contrôle là-dessus.
Oui, oui, bien sûr. Bouger en dehors de travail, ça aide, c'est certain. Mais ce que Santé publique France souligne aussi, et c'est peut-être le message le plus, opérationnel pour le boulot, c'est l'effet bénéfique des interruptions fréquentes du temps assis. Même des petites pauses actives, mais régulières, ça peut faire une différence notable. C'est vraiment ce levier de l'interruption qui semble essentiel pendant la journée de travail.
C'est intéressant ça. Et le télétravail alors ? On pourrait penser comme ça qu'à la maison, on est plus libre de bouger. Mais l'article suggère plutôt l'inverse, que ça pourrait même aggraver la sédentarité. C'est un peu paradoxal, non ?
Ça peut l'être, oui. À la maison, les frontières entre le pro et le perso sont parfois floues. On peut enchaîner les visios sans se lever. On n'a plus les petits trajets pour aller à la machine à café, pour voir un collègue, ou même juste pour changer de salle de réunion.
C'est vrai.
Les pauses sont peut-être moins marquées. Résultat, on risque de rester encore plus longtemps immobile devant son écran. C'est pour ça que le document parle carrément d'une nécessité de santé publique d'intervenir pour réduire et interrompre la sédentarité, y compris pour les gens en télétravail.
D'accord. On voit bien les enjeux pour la santé. Et l'article fait aussi le lien avec la productivité. Il parle d'une corrélation positive entre activité physique et efficacité au travail. Donc moins de temps assis, plus de mouvement, ce serait bon pour la santé et pour la performance.
C'est la conclusion logique, oui. Et c'est ce vers quoi pointe le document. Des salariés qui sont en meilleure forme physique et mentale, moins fatigués, moins sujets aux douleurs, au stress lié à l'immobilité, eh bien, ils sont naturellement plus concentrés, plus créatifs peut-être, et donc plus performants. C'est un argument qui peut aussi peser pour que les entreprises décident d'investir dans des solutions. D'ailleurs, on reviendra peut-être sur cet aspect économique à la fin.
Justement, parlons-en. Des solutions. Face à ce tableau, un peu sombre quand même, que propose l'article comme mesure concrète, comme mesure préventive ? Il semble y avoir plusieurs stratégies. La première, ce serait de promouvoir les pauses actives.
Tout à fait. L'idée centrale, c'est d'encourager les interruptions régulières. La recommandation qui est citée est assez ambitieuse d'ailleurs. Bouger 5 minutes toutes les 30 minutes ou 10 minutes toutes les heures.
Ah oui, quand même.
Oui.
Alors, attention, il ne s'agit pas de faire une séance de sport complète, juste rompre l'immobilité. On se lève, on marche un peu sur place, dans le couloir, on fait quelques étirements, quelques squats, des gestes simples, mais répétés.
Mais est-ce que c'est vraiment réaliste ça, dans tous les contextes de travail ? Se lever toutes les demi-heures quand on est super concentré sur un dossier ou en pleine réunion ?
C'est une très bonne question. Et c'est là que l'adaptation et la culture d'entreprise sont clés. Il ne s'agit pas d'imposer une règle rigide, un peu infantilisante, c'est plutôt d'encourager, de rendre acceptable, voire normal, le fait de bouger régulièrement. L'article suggère même des idées un peu originales, comme participer volontairement à des petites activités dynamiques qui sont utiles pour tout le monde. Aller vider le bac de tri, s'occuper du compost, si l'entreprise en a un, pourquoi pas quelques minutes pour arroser les plantes ou entretenir un petit coin de verdure.
Ah, c'est pas bête, ça.
C'est une façon de rendre le mouvement utile et un peu social, quoi.
C'est une approche intéressante qui mêle l'individuel et le collectif. Et pour faciliter ces pauses, l'aménagement des locaux, ça peut jouer un rôle aussi.
Oui, le document parle de créer des espaces de pause dynamiques, plutôt qu'une simple salle avec des chaises et une machine à café. On peut imaginer un coin avec un espalier au mur, peut-être des barres de traction, une table de ping-pong ou même un vélo elliptique ou un rameur en accès libre. L'idée, c'est d'inviter au mouvement pendant les pauses, naturellement.
D'accord, pour les pauses. La deuxième stratégie, c'est de promouvoir les changements de posture pendant la journée.
Exactement. Là, l'idée, c'est d'alterner consciemment les tâches qui demandent des postures différentes. Plutôt que de faire 4 heures d'ordi d'affilée, on essaye d'intercaler des activités où on peut être debout ou marcher. Par exemple, passer ses coups de fil en marchant dans son bureau ou dans le couloir, si c'est possible, bien sûr.
L'article donne d'autres exemples, oui. Faire certaines réunions courtes en marchant, les fameux « walking meetings », comme on dit.
C'est ça.
Ou profiter d'un webinaire où on est juste auditeur pour se lever et marcher un peu, caméra coupée. Ce sont des petites astuces, ça demande une petite réorganisation, mais ça semble faisable.
Oui, ça vise à intégrer le mouvement dans le travail lui-même, pas seulement pendant les pauses dédiées. Ça demande un petit changement d'habitude, c'est sûr, et parfois aussi une évolution de la culture dans l'entreprise pour que ce soit bien vu. Faire une réunion en marchant, c'est pas encore la norme partout, hein.
Non, c'est clair. Passons à la troisième stratégie. L'article dit que c'est la mesure la plus efficace pour réduire le temps passé assis. Le mobilier actif. Pourquoi c'est jugé si efficace ?
Ben, probablement parce que ça agit directement sur l'environnement physique immédiat de la personne. Ça permet d'intégrer le mouvement ou de changer de posture pendant qu'on travaille sans avoir besoin d'une vraie pause. On parle ici des bureaux réglables en hauteur qui permettent de travailler tantôt assis, tantôt debout. C'est peut-être l'exemple le plus connu.
Oui, on en voit de plus en plus. Mais il n'y a pas que ça, si.
Non, non. Le document mentionne aussi les sièges qu'on appelle ergonomiques, qui favorisent une certaine mobilité du bassin. Les Swiss balls, ces gros ballons.
Ah oui, les ballons.
Qui obligent à maintenir une posture active pour pas tomber. Ou alors des équipements plus spécifiques, comme des petits tapis de marche ou des pédaliers, des ergocycles, à mettre sous le bureau pour bouger les jambes tout en tapant à l'ordi.
Ça peut paraître un peu futuriste pour certains bureaux très traditionnels, mais l'article cite un exemple concret, une administration centrale d'un pôle ministériel qui met ce genre de matériel à disposition. Des bureaux de marche, des pédaliers, des Swiss balls. Donc, c'est faisable.
C'est un signal encourageant, oui. L'objectif chiffré qui est parfois mentionné dans ce contexte et qui est dans notre source, c'est de limiter le temps total de posture sédentaire à 5 heures par jour de travail.
5 heures ?
C'est ambitieux, hein, quand on part de 10, 11, parfois 12 heures pour certains, mais ça montre la direction. Le mobilier actif, c'est un outil puissant pour aller vers ça. Même si, bon, ça représente un investissement au départ et ça peut poser des questions d'espace ou d'adaptation pour certains postes.
On imagine bien. Bon, enfin, quatrième et dernière stratégie abordée, la sensibilisation et l'éducation. Pourquoi c'est si important ?
Ben, parce que sans prise de conscience individuelle et collective, les autres mesures risquent de ne pas marcher ou pas sur la durée. Comprendre pourquoi c'est important de bouger, quels sont les vrais risques de l'immobilité prolongée et les bénéfices concrets de l'activité physique. C'est ça qui va motiver les gens à changer leurs habitudes. C'est la base, en fait.
Et comment ça peut se traduire concrètement en entreprise, cette sensibilisation ? L'article donne des exemples.
Oui, il cite des actions qui ont été menées dans le pôle ministériel étudié. Par exemple, pendant la semaine de la qualité de vie et des conditions de travail, la QVCT, en 2023, ils ont organisé un challenge sportif entre les services, proposé un webinaire sur les bienfaits de bouger et distribué des fiches pratiques avec des petits exercices à faire au bureau, des étirements, du renforcement musculaire facile.
Intéressant. Il parle aussi d'un partenariat lié au JO de Paris 2024 pour encourager le sport au travail et d'une formation spécifique pour les assistants de prévention avec l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, qui est une référence sur la santé au travail.
Exactement. Et l'article s'inspire aussi de ce qui se fait ailleurs. Des campagnes de communication dans des directions régionales comme la DRETS en PACA ou la DRAF en Bretagne, ou encore la promotion active du sport au ministère de l'Intérieur. Tout ça, ça montre qu'il y a une tendance de fond, une prise de conscience que la santé au travail, ça passe aussi par la lutte contre la sédentarité.
Bien. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Si on devait résumer les points clés de notre discussion, la sédentarité au travail, c'est moins le temps total assis que les longues périodes sans interruption et la durée cumulée. C'est ça qu'il faut retenir. Les risques sont réels pour le physique, TMS, diabète, maladies cardiovasculaires, et pour le mental, stress, anxiété, et ça peut impacter la productivité.
C'est ça. Et face à ça, Plusieurs leviers existent et sont encouragés par notre source. Favoriser les pauses actives régulières, même courtes, encourager à changer de posture pendant la journée, investir dans du mobilier actif pour bouger ou travailler debout, et enfin, et c'est fondamental, sensibiliser et informer pour que ces nouvelles habitudes s'installent durablement. C'est vraiment une approche sur plusieurs fronts.
Une approche d'autant plus pertinente que, on l'a dit au début, l'employeur a une obligation légale de protéger la santé de ses salariés. Donc ces informations sont vraiment cruciales pour tous ceux qui passent de longues heures assis pour préserver leur bien-être et leur efficacité.
Tout à fait. Et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion, au-delà de ce qu'on a dit aujourd'hui, l'article source fait référence dans sa bibliographie à une étude de l'ONAPS, l'Observatoire national des activités physiques et de la sédentarité. Et cette étude s'intéresse à l'impact économique de l'activité physique, pour l'entreprise, pour le salarié et pour la société en général.
Ah, intéressant. Et c'est là qu'une question se pose, une question qui n'est pas vraiment développée dans les extraits qu'on avait, mais qui est essentielle pour la suite, je trouve. C'est, au-delà des bénéfices pour la santé de chacun, comment les entreprises peuvent-elles évaluer concrètement le retour sur investissement de ces mesures anti-sédentarité ?
C'est toute la question, oui. Est-ce qu'on peut chiffrer l'impact de l'installation de bureaux assis debout ou de l'instauration de pauses actives, par exemple sur la baisse de l'absentéisme lié au TMS, sur l'amélioration de la concentration, de la productivité, ou même sur l'attractivité de l'entreprise si elle montre qu'elle se soucie du bien-être ? Mesurer concrètement ses bénéfices économiques et organisationnels, c'est sans doute le prochain défi pour que ces pratiques se généralisent et durent. C'est une piste de réflexion passionnante, je trouve, pour continuer à creuser le sujet.